Malheur à toi si tu oses décider qui nous sommes. Un mot d'interprétation, la fête est finie. La solennité de la fête, c'est d'inventer l'énigme. À travers ces mots, placés dans la bouche de Hans, l'un des personnages de Parle et Village, Hubert Diederfer, refusant d'être défini comme ouvrier, Peter Handke semble déposer au cœur même de la pièce, publiée en 1981, un avertissement face à toute tentative de ramener son œuvre à un genre, un registre, une intention préétablie, bref, de l'assigner à résidence. Tenter de démêler les multiples écheveaux génériques de cette œuvre inclassable, d'en distinguer les strates intertextuelles, d'en éclairer les pistes interprétatives, conduirait irrévocablement à briser sa force communautaire et le plaisir qu'elle peut susciter. Et effectivement, la pièce fait alterner, pour reprendre les mots de Stanislas Nordet qui la met en scène en 2013, après plusieurs autres, hein, des zones d'une grande clarté accolées à des zones de clair-obscur. Elle mêle le familial et le politique, la référence à l'enfance et l'omniprésence des morts. Elle fait se croiser dialogue, cœur et long monologue, résonance tragique et mouvements épiques qui désorientent en permanence le spectateur et entravent tout ce qui pourrait s'apparenter au confort de la reconnaissance. Pourtant, parallèlement à la création scénique de l'œuvre par Wim Wenders à Salzbourg en 1982, Peter Handke publie un journal d'écriture, L'histoire du crayon, qui permet de découvrir l'atelier de l'écrivain, éclaire des zones d'ombre et suggère d'autant plus le jeu interprétatif. Parmi ces pistes, les notes prises lors de la fréquentation quotidienne des auteurs antiques, et plus précisément d'Eschyle, le plus ancien des tragiques grecs dont nous avons conservé les œuvres, se donnent à lire comme une véritable invitation à entrer dans la fête, tout en réinventant l'énigme. Je ne suis pas, quant à moi, spécialiste de la littérature du XXe siècle. Mes recherches portent majoritairement, donc comme la Diane, sur l'histoire de la réception du théâtre antique, de la traduction à la scène en France et en Allemagne. Mais depuis quelques années, mon attention s'est plus précisément portée par-delà ce que l'on considère habituellement comme adaptation ou réécriture, sur tous les éclats, les brisures ou les échos de la tragédie antique et qui viennent habiter, hanter, dirait-on aujourd'hui, le théâtre contemporain. Dans cette perspective, il ne s'agit pas tant de repérer les traces d'un héritage que de s'interroger sur ce que signifie pour un auteur contemporain le geste de retourner vers ce corpus, non pas pour l'actualiser, mais précisément parfois pour reconnaître la rupture, pour s'y dépayser et explorer toutes les possibilités créatrices d'une séparation alors vécue comme irrémédiable. Or, ces questions sont au centre du poème dramatique « Par les villages » qui mêle l'expérience de dépaysement des personnages avec celle de l'écriture. L'expérience de dépaysement se manifeste en effet à travers celle de l'étrangeté, mais aussi à travers la nécessité de trouver de nouvelles voies, de nouvelles formes, une nouvelle communauté. Paradoxalement, c'est alors dans un mouvement réaffirmé vers une origine, ici du théâtre, vécue sur le mode hölderlinien d'une lointaine étrangeté, en suivant la trace, non le modèle, de la tragédie antique, que Peter Handke propose de trouver le chemin vers l'inconnu en même temps que vers soi-même et l'expérience instinctive de l'instant présent. En 1981, Peter Handke publie donc « Par les villages », poème dramatique qui vient clore une tétralogie initiée avec « L'en retour » et poursuivie par « La leçon de la Sainte Victoire » et « Histoire d'enfant ». « L'en retour », publié en 1979, suivait le voyage du géologue Zorger du Grand Nord de l'Alaska à la côte est des États-Unis, puis vers l'Europe natale, dans une expérience de déracinement qui se faisait aussi redécouverte de la communauté. Le cycle se poursuit en 1980 avec un essai, « La leçon de la Sainte Victoire », qui explore ce que pourrait être un réapprentissage de la perception à travers la peinture de Cézanne. En 1981, « Histoire d'enfant » évoque le voyage du narrateur, l'adulte, de la France à l'Autriche, l'espace de la langue première, je cite, en compagnie de l'enfant, sa fille. Par les villages, qui clôt donc la tétralogie, met en scène la fin de ce périple à travers le personnage de Grégor, revenu au village de son enfance. Les quatre œuvres se présentent donc comme une odyssée, récit d'un long retour vers le pays natal, qui est aussi quête lentement déployée d'un lieu à habiter. L'arrachement premier de Zorger, devenu personne, tel l'Ulysse d'Homère, lui permet de porter sur le monde un regard neuf, non orienté par une recherche d'utilité immédiate, faisant émerger ce qui d'ordinaire reste inaperçu. C'est un bouleversement des repères qui se construit progressivement, le lieu de l'exil se révélant comme nouvel espace du familier, dans lequel pourraient émerger de nouvelles relations à l'autre, tandis que le pays natal devient quant à lui le lieu de l'étonnement et de la désorientation. Peter Handke souligne lui-même la dimension autobiographique de cette tétralogie. Originaire de Griffen, un village de Carinthie, une région habitée par des Slovènes qui fut intégrée à l'Autriche, il explique n'être pas parvenu, je le cite, à établir, ni en y travaillant, ni en ressentant les choses, ni les deux à la fois, une relation durable à son pays natal. L'ambivalence se manifeste en particulier dans la difficulté à apprendre le slovène, matière obligatoire dans le village de Carinthie où il habitait enfant, et où l'on ne pouvait selon lui vivre que tiraillé, je le cite, entre deux états, ou bien entre deux langues. Cette difficulté à habiter le lieu natal, à le reconnaître comme familier, ancré dans la complexité de l'histoire récente autrichienne, motive, on le sait, les multiples voyages ou les multiples errances de Peter Handke lui-même, comme elle motive l'exil et le retour de ses narrateurs. Elle inspire aussi le besoin, je le cite, de « réinventer son pays, l'Autriche, d'une manière qui ne soit pas réaliste, avec des détails réalistes, mais avec une vision qu'il espère acquérir à travers l'écriture. » Par les villages, qui clôt la tétralogie du retour, s'inscrit dans cette problématique. La pièce s'ouvre sur ce qui devrait être le point d'orgue de l'itinéraire, l'arrivée de Grégor au village de l'enfance. Écrivain parti à la ville, vivre à la ville, ce dernier revient, à la demande de son frère, Hans, afin de régler la question de l'héritage de leurs parents. Il s'agit plus précisément de leur maison, qui lui revient de droit, il est l'aîné, mais que son frère habite, et à laquelle il lui demande de renoncer au profit de sa sœur, Sophie. Ce retour fait revivre les conflits de l'enfance et ressentir à nouveau les rivalités entre frères, ce qui constitue le support de l'intrigue. Mais il est aussi l'occasion pour Grégor de redécouvrir son pays natal, aujourd'hui métamorphosé. Alors qu'il évoque son rêve d'un retour dans le cadre d'origine, comme expérience de vraie félicité, la pièce va lui offrir plusieurs expériences de décadrage successifs. C'est que le village est occupé par un important chantier au sein duquel les ouvriers terminent leur dernière journée de travail avant de partir ailleurs. Le moment de la pièce est donc un moment de passage pour ces derniers qui vont repartir comme pour Grégor qui revient. Et le paysage lui-même porte la marque d'une transition qui modifie la perception. Donc je le cite, et à chaque fois je cite la traduction de George Arthur Goldschmidt, hein, qui est parue dans la collection du manteau d'Arlequin. Le chemin jusqu'ici était long. Déjà, à l'entrée de la vallée, les nuages de poussière s'élevaient des chantiers. L'eau du fleuve en était jaune. Derrière chaque plaque de localité, une autre, beaucoup plus grande, portait le numéro du chantier. Mais moi j'ai pris le chemin de crête entre les vergers. Or ce bouleversement que découvre Grégor est dénoncé par les personnages qui vivent au village. Il est dénoncé comme dénaturation. L'intendante du chantier, puis la vieille femme, observe l'omniprésence d'une marque artificielle imposée au lieu par le monde moderne. Je cite encore. « Et le village, où est-il ? Là où il y avait le milieu, on a mis une plaque, centre-village. Même les anciens sentiers ont été entre-temps tous munis de plaques. Ils portent le nom des riches nouveaux arrivants qui ont leur maison de campagne et payent les gros impôts. » En ce sens, c'est le lien à la nature qui se trouve entravé, détourné, au profit d'une société du clinquant, du folklore et du pittoresque, de tout un bric-à-brac anachronique, je reprends les mots de la vieille femme, de tout un bric-à-brac anachronique, pardon. Ainsi, l'expérience de dépaysement est-elle avant tout vécue par les habitants eux-mêmes, au sein même de leur propre village, sur le mode de la non-reconnaissance et de la perte. Comme tout est devenu étranger ici, peut-être le village n'a pas même existé, dit la vieille femme. Il ne cesse d'évoquer la rupture avec la nature. « Nature sauvage, où es-tu ?» dit l'intendante. Par-delà les transformations du paysage, ce sont donc les relations elles-mêmes qui ont été perverties, sans qu'aucune communauté soit désormais possible. Le regard porté par Grégor lui-même sur sa propre sœur et la vie de commerçante qu'elle souhaite mener souligne encore davantage ce qui ne peut être pour lui que perte de l'authenticité. Corps contraint, gestes faussés, paroles dévoyées. Bien plus, la dénaturation imposée par ce monde moderne est alors présentée comme véritable aliénation. Je cite encore. « Même en forêt ou au bord de la mer, au lieu de bruissement, tu n'entendras plus que le clinquement des caisses enregistreuses. Ton pays natal sera le registre du commerce et ton nom, commerçante, sera de ton vivant un nom sur une tombe. » Le retour de Grégor au village après son exil et l'expérience de dépaysement dont il fait part face à ce qui lui était autrefois le plus familier cristallise donc les sentiments de perte et les angoisses de dénaturation vécues par les habitants eux-mêmes. Son regard, qui libère l'espace et la parole, permet alors de donner voix à tous ceux qui ne l'avaient pas, à tous ceux que l'on ne voit d'ordinaire pas. Son passage au village et le regard distancié, rénové qu'il porte sur lui jouent en quelque sorte le rôle d'un révélateur, puisqu'ils permettent de faire réémerger un monde d'avant, déjà perverti, bientôt irrémédiablement perdu. Ce qu'éprouve Grégor relève certes pour une part d'une expérience commune de dépaysement qui touche tout homme qui revient dans son pays après une longue vie menée ailleurs. On en parlait pour Albert Camus par exemple. Le lieu fantasmé ne peut être celui que l'on retrouve, car comme l'explique Vladimir Yankelevitch dans L'irréversible et la nostalgie, donc je le cite, le voyageur revient à son point de départ, mais il a vieilli entre-temps. S'il s'était agi d'un simple voyage dans l'espace, Ulysse n'aurait pas été déçu. L'irrémédiable, ce n'est pas que l'exilé ait quitté la terre natale. L'irrémédiable, c'est que l'exilé ait quitté sa terre natale il y a 20 ans. L'exilé voudrait retrouver non seulement le lieu natal, mais le jeune homme qu'il était lui-même autrefois quand il l'habitait. Ulysse est maintenant un autre Ulysse qui retrouve une autre Pénélope. Et Ithaque aussi est une autre île, à la même place, mais non pas à la même date. C'est une patrie d'un autre temps. Mais ici, l'expérience d'étrangeté se retourne en quelque sorte sur Grégor lui-même, que les autres personnages ne reconnaissent plus comme l'un des leurs. Retourne chez toi à l'étranger. Il n'y a que là-bas que tu es ici. Le familier s'est donc en quelque sorte déplacé, excentré. L'origine a été déterritorialisée. Ainsi, là où l'Ulysse d'Homère revient à Ithaque pour y rester, Grégor, tel l'errant de Hölderlin, qui redécouvrant lui aussi un pays natal auquel il se sent désormais étranger, ne peut que constater sa solitude, et l'élégie d'Erwanderer, dans sa deuxième version plus précisément, pourrait être analysée comme un autre matériau intertextuel de la pièce de Handke, mais cela dépasserait évidemment le cadre de cette communication, Grégor donc s'arrache au familial pour chercher ailleurs l'origine et créer ailleurs une autre communauté, entraînant avec lui ceux qu'il avait quittés. Je cite « Nous sommes ceux qui n'ont pas de père, déclare son frère Hans, acquittés, débarrassés du pays natal, les beaux étrangers, les grands inconnus à la sage lenteur, les hommes de tous les temps. » En ce sens, la pièce s'inscrit dans cette idée chère à Peter Handke, selon laquelle la patrie ne peut s'identifier au pays natal réel, mais doit se redéfinir par le détour, se réinventer par l'écriture. Or, ce nouveau départ qui a la liberté de l'aventure, le défi d'une résolution, s'accompagne d'un éclatement de la forme même de l'œuvre, progressivement métamorphosée par des éclats, un chant, une ivresse dionysiaque. La recherche d'un autre natal est en effet aussi, ou surtout même, à comprendre comme un parcours d'écriture et une interrogation sur l'origine des formes et des genres. On a souvent évoqué le matériau antique qui traverse par les villages. Peter Handke lui-même, on l'a vu, lisait et commentait Eschyle pendant la période de composition de la pièce. Quelques années après cette lecture, il traduira le Prométhée enchaîné en 1986, puis Œdipe à Colonne en 2003, pour des mises en scène de Klaus Michael Gruber. L'on pourrait facilement se prêter au repérage des citations et retrouver l'expression de la lamentation « oi moi, oi moi, oi moi ». La réécriture, alors faussée, là encore, hein, comme Pascal Quignard, mais bon, la réécriture d'un vers de l'Agamemnon d'Eschyle. Il a un taureau sur la langue qui le rend muet. Ou de l'Œdipe roi de Sophocle. « Oh, vous, trois routes, et toi, précipice lointain. » On pourrait comparer les conflits fraternels modernes avec ceux des familles antiques, les personnages de l'intendante et de la vieille femme avec des divinités lares d'un pays dévasté. Et je pourrais multiplier les exemples. Pourtant, on aurait tort de voir dans cette pratique de citation ou d'allusion un jeu d'érudition, qu'il soit expression d'une complicité ludique avec le spectateur ou bien au contraire procédé de déconstruction. Il peut être davantage fertile d'analyser ces procédés en termes d'écho et de traces, comme le propose Arlette Camion. La tragédie grecque constituerait selon elle un site, voire une voûte, que la pièce contemporaine viendrait en quelque sorte habiter et actualiser. Il me semble que la démarche relève aussi d'un autre mouvement. Ce qui intéresse, me semble-t-il, Peter Handke dans son long cheminement avec les tragédies grecques, c'est plus précisément l'étude d'une dramaturgie et l'analyse des modalités et de l'efficacité de la parole. La parenté peut apparaître dans la structure d'ensemble. La pièce commence par ce qui pourrait être le retour d'Oreste vers le lieu natal et l'instauration d'un conflit. À l'instar des héros tragiques, chacun est dans son droit, indique la didascalie initiale. Grégor, qui veut conserver la maison, et dit le rejet de la dénaturation des choses par le commerce. Sophie, qui dit son envie de ne plus se soumettre, de ne plus vivre en domestique. Hans, qui refuse toute assignation. Le dépassement du conflit entre ces positions irrémédiables, telles celles d'Oreste et des Erinies, s'opère à travers l'intervention de Nova, qui vient proclamer une nouvelle ère, par-delà le tragique, telle l'Athéna de l'Orestie. Ce qui s'est passé entre vous, que ce soit votre dernier drame. Les emprunts émergent aussi dans les procédés dramaturgiques. Les personnages se présentent en nommant la vallée dont ils sont originaires, tels les héros des sept contre Thèbes. L'action se passe devant les lieux, le rideau, le chantier, le cimetière, comme l'observait Peter Hanke dans les tragédies antiques. Je le cite, « Ce qui est essentiellement répétable, c'est cette particularité des drames grecs de jouer quelque chose devant un lieu, devant un palais, devant une tente, devant un bosquet. Dès lors, l'intrigue, les actions violentes, ne font pratiquement plus que se dérouler à l'intérieur, de façon invisible. » Mais là où d'autres auteurs contemporains, Sarah Kane par exemple, ne voient dans cette relégation de l'action violente hors scène qu'hypocrisie et fausse bienséance, Handke observe comment inventer la possibilité d'une dramaturgie de la parole qu'aucune intrigue ne viendrait perturber. Je le cite. « De tous les tragiques, Eschyle m'apparaît comme le plus accompli. Pas d'intrigue, rien que la violence de la parole, drame pur. » Revenir à Eschyle, c'est en effet rechercher ce que pourrait être une scène dépouillée de, je cite, « dialogue des actions truquées du théâtre conventionnel ». C'est donc pour une part, comme se le proposait Ariane Nouchkine décidant de mettre en scène la trilogie des Atrides, retourner à l'école et puiser à la source des sources, les Grecs. Mais ce qui intéresse Peter Hanke ici, ce n'est pas tant de puiser, d'extraire ou de rapporter un matériau théâtral, c'est plus précisément le geste même de retour à travers lequel la pièce va remonter le cours de l'histoire de la tragédie pour en retrouver la force originelle. Dans ce même mouvement où Grégor revient sur le lieu du natal, Handke revient sur des lieux, des formes, une parole théâtrale qu'il considère comme originelle. Le poème dramatique se cherche donc à travers le retour à l'épique, dont la tragédie elle-même est née, note Handke dans ses notes en citant Grillparzer. La prise de parole des personnages, face au public, pour raconter la dénaturation de leurs conditions, est aussi héritée de cette volonté de faire de la pièce une épopée du quotidien. On observera aussi que parallèlement, le texte se trouve lentement, progressivement, traversé, dépaysé par une écriture chorale, dans une structure alternée, dialogue et chœur, caractéristique de la tragédie grecque et plus encore de ses débuts. Peter Handke note dans Histoire du crayon, je cite, « Dans Eschyle, exactement le rythme d'un negro spiritual. Lamentez-vous avec moi, nous nous lamentons avec toi, etc. » À la fin de Parler village, Hans s'écrit « Dites malheur » et les autres personnages répondent en chœur « Malheur ». Il s'agirait donc de retraverser comme à rebours l'histoire des genres pour retrouver la possibilité d'un théâtre très dramatique, selon une lecture d'Eschyle qui deviendra courante à la fin du XXe siècle, dans les théories du théâtre post-dramatique notamment, et remonter dans une perspective nietzschéenne jusqu'à l'indétermination de l'ivresse dionysiaque. On comprend alors cette récurrente utilisation des masques évoquée dès la première réplique de la pièce, masque sur les joues, puis reprise comme en leitmotiv en gradation. Ils ont des masques au lieu de visage. Tous, l'enfant aussi, mettent leur propre masque. L'enfant frappe du bâton, tous retirent leur masque. Avant l'invitation au mouvement final, mettez votre masque de feuillage et renforcez le bruit de réel. Votre regard ne devient aigu que dans le bouleversement. On voit bien qu'il ne s'agit pas ici de recueillir des échos ou d'habiter des traces, mais bien de passer à travers l'histoire et le genre de la tragédie grecque pour faire à nouveau l'expérience dépaysante de sa force originelle de tremblement. Et de ce mouvement émerge progressivement une force d'arrachement, un ébranlement des formes et des certitudes qui permet, par l'accès à une vision originelle retrouvée, de resacraliser le théâtre. On pourrait ici analyser cet autre mouvement vers l'originel que constitue l'émergence du sacré dans la pièce, à travers les voix constamment déçues de la perspective christique, à laquelle succède dans l'éblouissement final une expérience mystique inspirée de Rodolphe Otto. On voit donc comment la thématique du chantier, omniprésente dans la pièce, permet peut-être de penser l'intrication des lignes fictionnelles et poétiques. La mise en chantier est en effet transformation du paysage réel, remodelage des relations entre les personnages, mais aussi fouille dans l'histoire du théâtre, dans une traversée des genres qui dynamise l'ensemble et crée l'élan. Parallèlement, ce mouvement de rupture et de déliaison se fait bouleversement des fondations et interrogation sur la valeur de l'héritage, qu'il soit réel, la maison parentale, ou figuré, l'histoire du théâtre et de la langue. Si la maison parentale constitue l'objet du conflit, elle permet en effet de poser une réflexion sur la transmission qui traversera l'ensemble de l'œuvre en de multiples ramifications. Personne, je cite, « personne ne retient rien. Rien n'est plus transmis », déplore l'intendante devant le paysage métamorphosé. La perte de la mémoire devient en effet un danger qui guette celui que Grégor appelle le perdant futur. Je le cite. Jamais ne lui viendra l'idée d'un héritage à transmettre. Sans mémoire, sans orientation, il rampera. En même temps, l'espace du chantier, devant lequel se jouait le premier tableau, laisse la place à celui du cimetière, nouveau lieu originel qui pourrait, comme le dit Grégor, maintenir une forme de transmission. Oui, ce cimetière muet, ici, c'est mon point de départ, ma culture. Grégor aurait voulu conserver la maison, retrouver le creux familier du banc de pierre au cimetière, mais de même que l'héritage ne saurait être celui matériel de la maison, de même il ne saurait se fantasmer dans la prégnance du souvenir des morts, dans les légendes longtemps véhiculées dans la dette et la culpabilité. À travers l'exhortation de Nova qui clôt la pièce, Peter Handke propose une autre forme de transmission, non plus fondée sur la seule filiation, mais sur l'amour et le désir de partage. Je cite, « Ceux qui aiment, seuls, transmettent. » Ce qu'il s'agit alors de partager, ce nouveau territoire, c'est, comme avait pu le faire Cézanne par la peinture, l'expérience du sensible, la vérité instantanée de la perception. Je cite, « Transmettez le bruissement, racontez l'horizon, exercez-vous à transmettre et inventez, transmettez le monde intact. » Le mouvement de décadrage, par-delà le pays natal et le tableau forcément perdu de l'enfance, s'accompagne donc du constat de l'impossibilité de toute conservation, voire de toute nostalgie de la tradition, en même temps que de l'appel à ressourcer l'expérience et l'être, et en même temps que le lien aux autres, dans une expression réinventée. Ainsi, la réflexion dépasse largement le cadre de l'intrigue pour s'inscrire dans une interrogation plus générale sur la place de la tradition au cœur même de la création. L'histoire du crayon porte la trace de ce long questionnement. Handke y consigne nombre de citations extraites des lectures qui accompagnent l'écriture de la tétralogie. Les auteurs antiques, Eschyle donc, mais aussi Pindare, Homère, Empédocle ou Thucydide, y ont la part belle. Mais ils côtoient Goethe, Hölderlin, Grillparzer, Hegel ou Nietzsche. Autrement dit, les différents jalons de l'histoire des interprétations allemandes de l'Antique. Dans un long paragraphe, Handke tente plus précisément de définir son rapport au classique, je le cite. Le classique, par opposition au naturaliste, est le naturel, ce qui est selon la loi. Et ce classique, ou le besoin que j'en ai, naît en moi de la manière suivante. Quelque chose qui m'a bouleversé doit m'être dit de manière bouleversante. Mais je ne dispose pas de la forme voulue. Je ne fais que bafouiller, sinon d'ailleurs cela ne m'aurait pas bouleversé. En même temps, il est vrai, des quantités de formules me font signe. Les répétitions bafouillantes du naturalisme, les faux fuyants du fragment romantique, la rengaine du néoclassicisme ou bien tout bonnement le silence, les différentes formes de trahison. Ce bouleversement, surtout quand il se reproduit, je ne veux pas le trahir, pas même en le taisant. Aussi vais-je, lecteur, chercher conseil dans l'histoire des formes et j'en reviens à ce qu'on sait de leur début. Quand enfin j'en arrive à formuler par moi-même, je me laisse guider, sans il est vrai les adopter, par ces formes. Le classique vient chez moi du besoin de la forme qui rend sans cesse répétable la sauvagerie originelle. Qui donc dit qu'il n'y a plus d'aventure ? La voie qui mène de ce qui est sauvage, originel et informel, à ce qui est sauvage, mais qui a une forme sauvage et répétable, c'est une voie aventureuse de l'enfance de l'esprit à l'esprit d'enfance. remonter le cours de l'histoire des formes et revenir à l'antique, c'est donc tenter d'atteindre l'origine par-delà la tradition. C'est remettre en chantier les habitudes acquises et déblayer le chemin de la création des strates d'un héritage parfois vécu comme trahison. C'est dépayser une origine écrasée par l'accumulation des interprétations pour retrouver ou trouver sa force expressive, sauvage et informelle. Passer par les villages, traverser l'histoire des formes et les laisser derrière soi permet alors, pour Handke comme pour Grégoire, de se déprendre d'une fascination pour la place de la maison natale, l'origine sidérante, et de quitter la posture de celui qui maintient fixe l'héritage pour se remettre en mouvement, suivre les voies d'une origine rendue à son universalité et inventer une expression qui puisse enfin transmettre le monde intact. La présence de la tragédie grecque, ici vécue comme origine, au cœur de Parler Village, introduit donc bien ce que l'on pourrait interpréter comme une césure, qui rend le présent comme étranger à lui-même, dans une expérience d'inactualité de ce présent par rapport à lui-même. Cette césure se fait en même temps tournant, fertile de potentialité, tant il est vrai que la tragédie antique devient alors facteur de rupture et de nouveauté. Cette rupture permet peut-être de libérer le théâtre des déterminations historiques et de l'affirmer comme un processus qui refuse l'emprise de l'histoire. C'est par cette expérience qui fait vivre, je cite Peter Handke, un absolu présent du théâtre, que ce dernier pourrait, si l'on en croit donc Peter Handke, trouver sa vérité et son autonomie.
Merci.